Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable.
C'était à l'été 2023. Bobby Pollack a réussi à s'introduire chez son ex-conjointe et se sent déclencher d'alerte, même s'il portait un bracelet anti-rapprochement. L'homme de 34 ans acceptait mal la séparation de son couple après à peu près un an de relation. Il s'était mis là à harceler son ex-conjointe. Et puis, en septembre, il est même entré à l'intérieur de sa résidence, allant même jusque dans sa chambre. Là, la victime était terrifiée. Heureusement, il a réussi à aller se réfugier chez un voisin. Et selon les informations de nos collègues du journal, Pollack aurait trafiqué son bracelet d'une manière assez banale là, pour couper le signal. Le tribunal l'a condamné maintenant à une peine de 22 mois de prison. On en discute avec Louise Riendeau, directrice du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Madame Riendeau, bonjour.
Bonjour, Monsieur Dubé.
Une peine de 22 mois de prison. Est-ce suffisant pour envoyer un message clair aux hommes violents de dire si vous trafiquez votre bracelet, ben il va y avoir des conséquences ou au contraire, on est encore face à une sentence bonbon envers des criminels?
Ben visiblement pour la victime qui a vécu ça, c'est pas une peine suffisante. Je lisais qu'elle est inquiète, qu'elle se dit quand il va sortir au bout de cette sentence là, qu'est-ce qui arrivera de moi? Et effectivement, on pense que si on veut que les gens respectent la limite qui est imposée par les bracelets, il faut qu'il y ait des sentences conséquentes quand il y a un bris de condition. Mais au-delà de ça, je dirais que peut-être la première chose qu'il faut voir, c'est comment évalue-t-on les contrevenants à qui on impose le bracelet. Est-ce que c'est aux bonnes personnes? Est-ce que c'est à des personnes qu'on pense qui vont respecter les limites que ça pose ou c'est des gens qui, comme dans ce cas-ci, vont tenter de le trafiquer, vont tenter de dépasser les limites, comme souvent on voit des conjoints violents le faire.
Moi, ce qui m'a marqué dans cette nouvelle-là, c'est, semble-t-il, la facilité avec laquelle l'homme a trafiqué son bracelet pour ne plus qu'il émette de signal. Est-ce que c'est une technologie fiable ou c'est un faux sentiment de sécurité?
Je pense qu'il faut poser la question au ministère de la Sécurité publique, mais qui dit technologie dit possibilité de panne, possibilité de défaillance. Donc, bon, on sait pas. Il y a eu quelques cas où les conjoints ont réussi à déjouer la technologie. Donc, nous, on veut vraiment que le ministère de la Sécurité publique s'assure que ça fonctionne. Mais en même temps, je pense qu'il faut pas être alarmiste. Là, c'est quand même une minorité de cas où ça s'est passé.
Expliquez-nous le fonctionnement. Comment ce bracelet-là, en temps normal, devrait fonctionner pour assurer un certain périmètre de sécurité à une personne qui est victime, par exemple, de violence d'un ex-conjoint.
Ouais. Ben en fait, au Québec, le fonctionnement qu'on a choisi, c'est on a un contrevenant qui a un dispositif électronique, la victime en a un aussi, et on va imposer deux périmètres. Okay. Un premier périmètre que s'il est franchi, le contrevenant va être contacté, on va lui dire, écoutez, vous vous en allez dans la mauvaise direction, partez dans un autre sens, vous ne pouvez pas être dans ce périmètre-là.
Il est à combien ce périmètre-là?
Je pense que c'est variable en fonction
la gravité
de la gravité, mais surtout de la géographie des lieux où la victime et le contrevenant habitent là. Fait que je pense que ça peut être variable selon les régions. Et si le contrevenant obtempère, bon, il retourne, il se passe rien. S'il persévère dans la direction où il est, là, les policiers sont avertis tout de suite et vont sécuriser la victime pour éviter que le contrevenant ne puisse l'approcher.
La victime est au courant
et
à quel
ensuite,
moment?
Dans le premier périmètre ou dans le deuxième périmètre? Non, je pense que dans le deuxième périmètre, en fait, la victime est au courant quand les policiers se rendent sur place pour la mettre en sécurité.
OK, sinon, elle n'est pas au courant. Si, par exemple, là, elle ne reçoit pas une alerte ou quoi que ce soit lorsque l'individu rentre dans le deuxième périmètre pour dire, regarde, il s'en vient, là. Mets-toi à l'abri,
Quand il est dans le deuxième périmètre, c'est sûr qu'à ce moment-là, elle est informée puis que
policiers.
La police se rend. Okay. Quand elle est dans le premier, elle ne l'est pas. Okay. Puis, ça serait pas utile qu'elle le soit parce que moi, je pense
anxiogène.
Que ça serait très anxiogène, ça créerait une hypervigilance de la part des victimes.
Là. Mais là, dans ce cas-ci, l'homme de 34 ans s'est retrouvé dans la maison de la dame, dans sa chambre à coucher.
Oui.
C'est un traumatisme, là.
Absolument. Et c'est pour ça que nous, on dit depuis les débuts, depuis qu'on a étudié le projet de loi sur le bracelet, il faut réseauter les victimes avec des organismes d'aide qui vont pouvoir les soutenir. Bon, s'il y a un bracelet, c'est parce qu'elles ont déjà vécu de la violence conjugale. Donc, il risque d'y avoir des conséquences de ces gestes-là. Donc, il faut les réseauter auprès d'organismes comme les maisons d'aide et d'hébergement qui vont pouvoir les soutenir, qui vont pouvoir jouer un rôle de défense de droit, les conseiller dans ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles peuvent pas faire. À l'heure actuelle, c'est des agents des services correctionnels qui sont en contact avec les victimes, mais nous, on pense que c'est pas suffisant, et d'autant moins dans des situations comme celle-là, où la victime a vécu des traumatismes suite à l'échec là, du bracelet.
Éclairez-nous, à l'heure actuelle, on en est où dans le déploiement de cette technologie-là? Est-ce qu'elle est présente partout au Québec, dans toutes les régions?
À ma connaissance, elle est maintenant dans toutes les régions du Québec ou à peu près.
Bonne
C'est
chose.
Sûr qu'il y a des régions où il y a des complications à cause de la réception des ondes cellulaires, là. Mais depuis les derniers mois, là, elle est à peu près partout au Québec, oui.
Louise Riendeau, vous êtes directrice du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Merci beaucoup d'avoir été présente à l'épisode d'aujourd'hui.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.